Merci de choisir le service public et Radio France Internationale. Il est 13h en temps universel, 14h ici à Paris, l'heure du journal avec Grégoire Morelli. Bonjour Grégoire.
Bonjour Nicolas, bonjour à toutes et à tous. À la une donc, ces libérations d'otages dans la bande de Gaza. Le Hamas a remis à la Croix-Rouge 4 soldats israéliens détenus depuis 15 mois dans l'enclave palestinienne. L'État hébreu qui doit désormais libérer 200 détenus palestiniens. On fera le point notamment sur les libérations de ces otages et la réaction que cela a suscité à Tel Aviv. La Colombie a annoncé hier le déploiement de 9000 soldats dans la région frontalière avec le Venezuela. Cette zone est en effet le théâtre d'affrontements meurtriers entre l'armée de libération nationale et des dissidents des FARC, vous l'entendrez. Alors qu'en Équateur, le gang des Lobos, les loups, vient de perdre un de ses leaders, Carlos D, alias le Chinois, a été arrêté par les autorités. Son groupe est actif dans la région andine, notamment concernant l'activité minière illégale. Enfin, nous serons en France, où se tient ce soir la finale de la Star Academy, la célèbre émission de télévision permettant à un chanteur amateur de se faire connaître. Mais la diffusion de ce programme donne lieu à de nombreuses sorties racistes sur les réseaux sociaux. En réaction, deux associations ont porté plainte. Des bus transportant des détenus palestiniens ont quitté deux prisons israéliennes. 200 prisonniers précisément doivent être libérés dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu à Gaza entre le Hamas et Israël. Les informations les plus récentes rapportent qu'une foule s'était rassemblée alors que les bus transportant ces prisonniers étaient en train de traverser les rues de Ramallah. Mais après la libération des quatre soldates israéliennes ce matin, les Israéliens ont laissé leur joie éclater, notamment à Tel Aviv, Nicolas Falaise.
Nous sommes si heureuses qu'elles rentrent à la maison. Nous avons attendu si longtemps.
Tahir et ses amis laissent éclater leur joie sur cette place de Tel Aviv où elles ont suivi chaque étape de la libération des otages. Toutes portent un t-shirt jaune qui montre qu'elles ont servi dans la même unité de l'armée que les quatre Israéliennes libérées ce matin.
Ça serait difficile de vivre un moment comme celui-là, chacune seule à la maison. Donc, nous avons décidé de nous rassembler et de suivre tout ça d'ici, sur la place. Nous avons besoin de ça. C'est quelque chose dont nous avons toutes rêvé depuis 15 mois.
Les quatre jeunes soldates libérées ce matin appartiennent à une unité de guetteuses, les Tatzpitaniotes, celles-là même qui n'ont pas été écoutées alors qu'elles signalaient des mouvements étranges dans la bande de Gaza juste avant les attaques du 7 octobre 2023. Pour Tahir, cela aussi renforce le lien avec les quatre soldates libérées.
Nous avons toutes vécu une situation où personne ne nous a écoutés, ce qui a causé des problèmes. C'est pour cela que nous disons, cela aurait pu nous arriver le 7 octobre, aurait pu se produire pendant notre service. C'est ce qui nous rapproche et c'est pour cela que nous les appelons nos petites sœurs. Elles sont nos petites sœurs.
Nicolas Falaise, Tel Aviv, RFI.
Direction les États-Unis. Donald Trump l'avait acté dans un décret quelques minutes après son investiture et c'est effectif depuis cette nuit. Washington met en pause son aide étrangère pendant 90 jours. Le temps, précise le secrétaire d'État Marc Rubio, d'évaluer si les programmes d'aide américains sont conformes avec la politique du nouveau locataire de la Maison-Blanche. Cette décision ne concerne pas l'Égypte ni Israël. Elle épargne aussi l'aide alimentaire d'urgence. Il n'en reste pas moins qu'elle plonge des organisations humanitaires dans une période de doute, à commencer par Oxfam, qui mène des actions dans une quarantaine de pays. Écoutez Louis-Nicolas Jandot, il est responsable humanitaire pour l'ONG.
On est extrêmement effrayés par cette annonce. Ça fait rentrer le monde de l'humanitaire dans son entièreté dans une incertitude terrible sur tous les programmes d'aide humanitaire évidemment américain, mais compte tenu du poids des États-Unis, c'est vraiment la réponse à toutes les crises humanitaires actuelles qui est remise en question. Il faut avoir en tête que les États-Unis sont le principal bailleur d'aide humanitaire et de très très loin. Ça fait planer un doute complet sur certains programmes qu'on a engagés au Liban, où aujourd'hui, à titre d'idée, donc c'est 40% de l'aide humanitaire engagée qui devait être fournie par les États-Unis. Et donc nous, ça veut dire que sur nos 5 programmes spécifiquement en réponse à ce plan humanitaire, eh ben on en a au moins 2 où on n'a plus aucune certitude qu'on va pouvoir les mettre en œuvre sur l'année à venir.
Louis-Nicolas Jandot, responsable humanitaire pour l'ONG Oxfam, c'était au micro de Nicolas Feldman. Dans le reste de l'actualité, plus de 100 morts et quelques 36 000 déplacés en Colombie. Bilan des affrontements entre deux groupes armés dans la région dite du Catatumbo. Un bilan qui continue de s'alourdir. Hier, vendredi, l'armée a lancé une offensive contre la guérilla de l'ELN, jugée responsable de la crise en cours. Marie-Ève de Teuf, l'objectif est de pacifier cette région où pousse de la coca et où transite également de la cocaïne.
Le président de gauche, Gustavo Petro, avait promis la paix. L'horreur des violences commises par l'ELN contre la population civile du Catatumbo l'a contraint à déterrer la hache de guerre. Vendredi, le ministre de la Défense, Ivan Velasquez, a annoncé le déploiement de 9000 soldats dans cette région frontière avec le Venezuela. Il a offert une récompense de 700 000 euros pour la capture des grands chefs de l'ELN qui, il y a encore un mois, étaient assis à la table des négociations de paix avec le gouvernement Petro à Caracas. Les chefs guérilleros sont peut-être encore au Venezuela. Le ministre Velasquez a rencontré vendredi son homologue vénézuélien, le général Vladimir Padrino, pour parler sécurité et lutte contre le trafic de drogue à la frontière. Mais les relations sont très tendues entre les deux pays, Petro n'ayant pas formellement reconnu la réélection très contestée de son voisin Nicolas Maduro. La crise diplomatique pourrait compliquer encore la tragédie du Catatumbo. Marie-Ève de Teuf, Bogota, RFI.
Chez le voisin équatorien, la lutte contre les bandes criminelles se poursuit. Une lutte lancée il y a un peu plus d'un an par le président Daniel Noboa. Plus d'une vingtaine de ces bandes ont été déclarées terroristes. Et l'une d'elles, Los Lobos, les loups en français, vient de perdre un de ses leaders. Plus de détails avec notre correspondant en Équateur, Eric Sanson.
Carlos D, alias le Chinois, a été arrêté dans une villa cossue du quartier de la Sequita dans la ville de Porto Viejo. Les autorités ont saisi de grandes quantités d'argent liquide, des voitures blindées, des armes de poing, des fusils et de la drogue. Considéré comme un objectif de grande valeur, il a été détenu avec deux de ses hommes lors d'une opération où les militaires n'avaient pas lésiné sur les moyens. Alias le Chinois est en effet le numéro 2 du groupe armé organisé Los Lobos. Les loups ne le cèdent en puissance qu'au groupe des Choneros, la bande criminelle la plus ancienne de l'Équateur. Après l'assassinat de son leader, des conflits internes avaient provoqué la dislocation des Choneros en de nombreux groupes, parfois alliés, parfois opposés. Ceux restés fidèles aux Choneros travaillent avec le cartel mexicain de Sinaloa, alors que leurs opposants, comme les Lobos, sont alliés au cartel Jalisco Nouvelle Génération. C'est cette guerre mexicaine transposée en Équateur qui explique d'ailleurs la hausse considérable de la criminalité dans le pays. Outre le trafic de drogue, l'extorsion et les assassinats sur commande, les loups sont dominants dans la région andine et très actifs dans l'activité minière illégale. Eric Sanson, Quito, RFI.
Direction l'océan Indien, où le couvre-feu instauré à mi-décembre à Mayotte, après le passage du cyclone Chido, a été levé ce samedi. C'est la préfecture qui l'a annoncé. Cette décision intervient à deux jours de la rentrée sur l'archipel. 117 000 élèves retourneront progressivement en cours à partir de ce lundi dans des conditions jugées trop hâtives par certains enseignants et parents d'élèves. La France, toujours pour terminer, où je vous le disais, ce soir a lieu la finale de la Star Academy, cette célèbre émission de télévision qui met en compétition des apprentis chanteurs qui rêvent de devenir des vedette de la scène musicale, une émission très suivie et largement commentée sur les réseaux sociaux avec parfois son lot d'insultes racistes et sexistes. L'une des deux candidates finalistes, Ebony, originaire de Guadeloupe et de Martinique, en est victime au point que deux associations, à savoir SOS Racisme et la Maison des Potes, ont décidé de déposer plainte. Baptiste Coulon, ces deux associations dénoncent des propos devenus la norme à chaque fois qu'une personne racisée est montrée à l'antenne.
La plainte vise une dizaine d'internautes, en cause des messages sexistes et racistes sur Facebook, X ou TikTok, appelant à ne pas voter pour Ebony en raison de sa couleur de peau. Si elle a été rendue publique, c'est pour deux raisons, explique Samuel Thomas, président de l'association La Maison des Potes.
L'enjeu, en fait, c'est d'obtenir que la condamnation d'une dizaine de personnes dissuade tout un tas d'autres racistes d'exprimer leur racisme. Et si on a rendu publique cette plainte ce matin et pas lundi, c'est aussi pour que la modération des publications soit le plus efficace possible ce soir.
Car pour l'heure, elle fait défaut. Ces messages deviennent systématiques quand une personne noire ou arabe participe à un télécrochet, dénonce les associations, et les auteurs sont rarement identifiés. Alors médiatiser le dépôt de plainte apparaît là aussi comme une solution.
Le parquet, à ce moment-là, va se sentir obligé de considérer qu'il y a un trouble manifeste à l'ordre public
et il va mobiliser des effectifs pour aller chercher l'identité des personnes derrière leur pseudo.
Dans la moitié des cas, aucune poursuite contre les auteurs n'est engagée d'après l'association. Alors c'est au public qu'elle s'en remet pour la finale de la Star Academy ce soir, en demandant de signaler les propos haineux et de conserver le lien URL du message. Il est à la fois une preuve juridique et le meilleur moyen de remonter jusqu'à l'auteur du commentaire.
Baptiste Coulon pour cette fin d'édition, le prochain journal consacré à l'actualité internationale d'ici 50 minutes. Bonne suite des programmes.